Salut, c'est Franck Taluto. Pour boucler cette quatrième saison de podcast, je vous propose de remonter le temps, direction les années 80 et 90, pour aller à la rencontre d'André Laurent. L'ancien président de l'AS Saint-Etienne vient effectivement de consigner tous ses souvenirs dans un livre, Débute à ma vie. S'il n'y parle pas uniquement de football, c'est bien et bien de ses 10 années au club dont on a discuté. Dessous de verre numéro 39, c'est parti! Bonjour André.
Bonjour Franck.
Merci de nous accueillir chez vous. On se rencontre à l'occasion de la parution de votre livre « Débute à ma vie ». Vous y racontez en détail votre parcours de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais on va se concentrer pour le moment sur les 10 années que vous avez passées comme président de l'AS Saint-Etienne entre 1983 et 1993. Avant cela, on va juste revenir un petit peu sur la jeunesse de cet ouvrage. Pourquoi et comment est-ce que vous avez écrit ce livre?
Mais je vous remercie d'être venu me rendre visite à la maison et puis de me poser cette question, parce qu'effectivement, pourquoi j'ai écrit un livre? Tout le monde connaît mon âge maintenant, puis c'est écrit dans le livre. J'ai eu 85 ans il y a un mois, le 1er mai un peu plus. Donc, à cet âge-là, généralement, on se consacre pas forcément à l'écriture, mais... L'idée m'est venue, j'ai cette idée en moi depuis un grand moment, notamment à partir des années 80, quand on bascule dans l'âge, il se passe quelque chose que vous connaîtrez quand, et je vous le souhaite de le connaître, comme je le connais, et de le connaître de la même façon, en bonne santé. Quand on bascule dans les 80 ans, l'univers change un petit peu. Soi-même, on ne se sent pas changé, mais le regard des autres change. Et tiens, il a 80 ans, oh, il est vieux, voilà. Et puis, mais ça ne me dérange pas tellement, parce que j'ai eu une vie saine, une vie pleine, une vie ardente, une vie accomplie. On ne peut pas, c'est irréversible, le courant de la vie. Donc, le Covid est arrivé dans les années, en 2019-2020, je crois que c'est 2020, c'est une bonne connaissance. Et là, nous étions enfermés, vous voyez, dans un espace fort agréable, c'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas souffert du tout. Et la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est pas d'écrire un livre. C'était de laisser un témoignage pour mes petits-enfants. D'accord. Donc nous avons, mon épouse et moi, 10 petits-enfants avec lesquels il y a une bonne relation, une belle entente, beaucoup d'amour, de tendresse et de plaisir à être ensemble, quel que soit leur âge. Ça s'échelonne de 27 ans à 2 ans, il y a tous les âges. Et j'ai beaucoup, en écrivant, j'ai commencé à écrire, et je vais revisiter ma vie, reparcourir ma vie. Et j'ai commencé à raconter, à écrire la première phrase. Et puis après, c'est parti. Alors, je ne peux plus m'arrêter. Ça a duré pendant des mois où j'ai découvert le plaisir de l'écriture, parce que je me considère moi-même comme un homme d'action, un homme de défi, un homme d'entreprise, un entrepreneur surtout, soyons précis. Et je n'avais jamais trop écrit de ma vie, écrit quelques lettres par-ci par-là, mais très 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 peu. Et quelque part dans ma tête, parce que je suis quand même un littéraire, j'aime la lecture, je suis passionné par les grands auteurs, par la philosophie, par la qualité, la beauté de l'écriture, par les belles histoires et les autobiographies aussi, enfin un ensemble de choses. Et j'ai commencé à écrire le titre. C'est assez curieux, mais le titre qui n'est pas celui-ci d'ailleurs. Le titre à cette époque-là, ça s'appelait « Grand-père », je m'adresse à mes petits-enfants, « Grand-père, raconte-nous l'histoire de ta vie ». Alors j'ai commencé, aujourd'hui, 8 avril 2020, c'est le début de mon livre. Et puis là, vous disiez, c'est parti, j'ai des souvenirs qui revenaient, des visages qui revenaient, des situations que j'ai vécues, à la fois bien, à la fois pas bien, avec beaucoup de joie, beaucoup de peine, beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites, beaucoup de rencontres, beaucoup de belles rencontres, et des amitiés sont nées, puis d'autres se sont défaites, enfin, une vie complète. Et tout ça, je l'ai revécu, alors je me réjouissais d'avoir une mémoire, une telle fraîcheur dans la mémoire.
Et justement, ça me pose question, parce qu'il y a des anecdotes, des souvenirs, voire des citations qui sont très précises. Est-ce que vous avez travaillé uniquement de mémoire, ou pendant votre vie, votre carrière, vous aviez l'habitude de prendre des notes quelque part?
Aucune note. Non. Aucune note, mais j'ai fait attention de bien respecter toutes les phases. des phases de ma vie. Je voulais pas faire une autobiographie, mais j'étais contraint et conduit à le faire quand même. À partir de la plus tendre enfance auprès de parents, j'ai parlé de mes parents avec beaucoup d'amour, de reconnaissance. J'ai parlé de mon grand-père qui s'est tellement bien occupé de moi. J'ai parlé de ma jeunesse. J'ai parlé de mon régiment, vous l'avez lu. Et puis j'ai passé beaucoup de temps à compter la très belle aventure de la création de mon entreprise. J'ai créé mon entreprise, j'avais 24 ans. Je l'ai quitté, j'en avais 66, 67, je l'ai confié à mon fils. Et c'est une très... Je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne cherche plus les compliments maintenant. Ça me passe au-dessus de la tête. Mais c'est une très belle réussite. Nous étions en partant de rien, à 24 ans, sans argent. À 35 ans, je faisais construire une usine de 10 000 m². Et puis après, dans le cadre de notre métier, qui est l'aimant d'assemblage de haute technologie pour le nucléaire, pour tous les grands secteurs des équipements, des biens d'équipements industriels, nous étions devenus, et nous sommes toujours probablement leaders européens.
J'ai une autre question par rapport au fait d'écrire. Vous disiez que ça vous trottait dans la tête depuis un petit moment. Forcément, quand on a été président d'un club et un club populaire comme la Saint-Étienne, j'imagine que cette proposition, vous avez dû l'avoir déjà.
Non. J'en ai entendu parler parfois, quelques amis me disaient « Ah, André, tu devrais écrire ta vie », ou journaliste parfois qui me disait « Tiens, si vous voulez, je pourrais me mettre à vos dispositions, on pourrait parler ensemble ». Mais c'était pas le moment. Parce que comme toujours dans la vie, il y a un moment où l'esprit, le cœur, l'imagination, les souvenirs émergent, et c'est le moment d'écrire, et puis après, avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. J'ai choisi le bon moment.
C'était une volonté de laisser passer aussi du temps plutôt que peut-être un an ou deux après
oui,
votre départ.
Oui, parce que alors je vous raconte l'histoire de ce livre. Donc au début, dès le départ, ce fut un ouvrage qui était consacré, dédié à mes petits enfants. Grand-père raconte une histoire de ta vie. Et je l'ai réécrit deux ou trois fois parce qu'au début c'était un récit. J'ai même pas mis de chapitre. Boum, comme ça venait, j'écrivais ce qui me traversait l'esprit inlassablement, mais toujours en suivant. Je m'étais quand même fait un plan. Un plan, je vais parler de ma petite enfance, de mon enfance, de mon régiment, de la création de mon entreprise, de la SS, de la chambre de commerce, des belles rencontres que j'ai eues, que j'ai faites, et que j'avais le plaisir que nous avons partagé, les joies et les peines. Le document au début était donc un long récit. Je l'ai réécrit une deuxième fois en commençant à mettre des chapitres. Je l'ai réécrit une troisième fois où à chaque chapitre, vous avez pu le lire d'ailleurs, j'ai mis une citation. Citation d'un auteur, d'un philosophe, d'un écrivain, d'un penseur, d'un essayiste, enfin différentes personnes qui ont fait des écrites. Qui a écrit de belles choses. Et puis j'ai un ami qui m'a téléphoné un jour en me disant « André, je sais que tu as écrit tes mémoires. » Je lui ai dit « Comment sais-tu cela ?» Je dis « Je ne sais pas. C'est un membre de ta famille qui m'en a parlé. J'aimerais le lire. » Alors je lui réponds « Écoute, Fabrice, c'est personnel. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma famille. » Je vais en tirer par photocopie une vingtaine d'exemplaires, je les distribuerai à ma famille ou à quelques amis très proches, ma sœur, des gens comme cela, ou mes neveux. Et puis, écoute, laisse-moi le lire, c'est mon métier de trouver des auteurs, de jeunes auteurs, quel que soit leur âge. Et donc, je vais confier le document, puis peut-être trois semaines après, il m'a rappelé, il me dit, écoute, je l'ai lu avec infiniment de plaisir, il y a de la matière première. Il y a de la fraîcheur, il y a de l'authenticité, peut-être que vous l'avez ressenti, je ne sais pas, mais lui, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'étais surpris de ses propos, parce que moi, ce n'était pas écrit pour être édité. Et il m'a dit, voilà, c'est bien tourné, mais maintenant, il faut le mettre entre les mains d'un professionnel. Professionnel, d'un journaliste. Il m'a dit, j'aimerais te présenter un journaliste qui n'a jamais écrit de livre, mais qui écrit bien, pour que vous passiez beaucoup de temps ensemble, pas pour réécrire. Je lui ai même interdit de retoucher ce que j'avais écrit. Ni changer le fond, la pensée, ni changer l'âme, le cœur du livre. Un journaliste qui m'aide à remettre en forme, à organiser les chapitres, parce qu'effectivement, il y avait des mélanges. De l'usine, je passais à la SS, de la SS, je revenais à ma chambre, à mon usine. C'était un peu compliqué pour le lecteur. Donc, on a passé, alors, tranquillement, calmement, amicalement, on a passé environ une année à échanger, parce qu'il habite à Rouen, on a échangé par téléphone, on s'en a échangé par Internet. Il est venu me voir nombreuses fois, on a beaucoup parlé. Alors, il n'a pas réécrit, il a repris tout ce que j'avais écrit, l'a remis en forme. Et la première fois qu'il m'a présenté, ça m'a plu, parce que c'était bien fait, certes, mais je ne me suis pas reconnu. Parce qu'il avait enlevé, comme un journaliste, un bon journaliste, il avait écrit pour le lecteur en s'intéressant aux faits, aux situations, aux factuels, mais il avait enlevé beaucoup d'émotions, il avait beaucoup de sensibilité. Et c'est ce que je voulais, moi, qu'il reste. De l'émotion, de la sensibilité et des valeurs.
Donc là, cette version qu'on peut acquérir, ce sont vos mots, vos sentiments ?
Ah, totalement.
D'accord.
Il m'a retourné certaines phrases que je n'avais peut-être pas très bien écrites. Il m'a aidé un petit peu à mettre de l'ordre dans cette pensée écrite.
Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de démarrer bien avant 1983 et votre arrivée à la présidence. Quelle place a occupé le football dans votre jeunesse puis dans votre vie d'adulte ?
Dans ma jeunesse, j'étais un bon joueur de football. Personne ne le sait, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé parce qu'on ne m'a jamais vu jouer. Effectivement, je me suis arrêté en partant au régiment à 20 ans, les 28 mois de régiment. Et quand je suis revenu, j'avais autre chose à faire, je jouais au football. J'ai créé mon entreprise très jeune, j'avais 23-24 ans, donc... Oui, j'ai joué, j'étais un bon joueur de foot quand j'étais jeune, à l'école, au collège, mais je n'ai jamais envisagé d'aller plus loin que le football amateur de mes jeunes années.
Mais ça n'a pas été une découverte fois président.
Deuxièmement, après, par la suite, je devins, lorsque j'étais industriel, j'avais 25, 28, j'ai toujours été un passionné, un fan, c'est pas le bon mot, un supporter de la SS. Mais quand on habite la région stéphanoise, ce qui est mon cas, ce qui est le vôtre aussi, on ne peut pas être, on est obligé d'être admiratif de ce qui s'est passé avec ce club dans les belles années les années 70, 60, 80, quoi, en gros. Quoi. Donc j'étais un supporter, j'allais aux matchs, tous les matchs, mes enfants venaient avec moi, j'invitais des clients, je faisais les opérations, les événements, l'événementiel un petit peu autour du football, j'invitais des clients, je rachetais les places, tout. Donc je connaissais très très bien, pas le milieu du football, mais j'utilisais bien le football, et j'aimais le football, et je continuais à aimer le football.
Alors du coup, est-ce que vous vous souvenez, vous étiez le 12 mai 1976 ?
À la finale à Glasgow ? Ah, j'y étais. Oui, nous avions pris l'avion avec un groupe d'amis. On est rentré 2 jours après, d'ailleurs. On a fait une fête pas possible, malgré la défaite, une fois que la défaite est consumée. Oui, je me souviens très bien de l'émotion et même de l'émotion. Et je crois même une petite larme qui a dû couler lors de la défaite, d'une façon un peu injuste. Je me rappelle ce coup franc sifflé par l'arbitre. L'arbitre fait signe au tireur d'attendre son coup de sifflet. Le gars tire, il marque le but et l'arbitre le valide alors qu'il n'aurait pas dû le valider. C'est une injustice que j'ai vue de mes propres yeux. Mais c'est un choix d'arbitre, alors injustice ou perception différente.
Je entre encore un peu plus dans le vif du sujet pour parler de votre mandat. Les livres d'histoire indiquent que vous prenez la présidence du club en succédant à Paul Bressy. Mais surtout, j'ai envie de dire à Roger Rocher, qui était parti un an après deux décennies de présidence emportées par l'affaire de la Caisse Noire.
Oui.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément tous les tenants de cette histoire, est-ce que vous pouvez résumer rapidement de quoi il s'agit ?
Ben, le contexte, si vous voulez, à ce moment-là, donc les années 79-80, les champions de France, on gagne la Coupe de France, en 76, c'est la finale. Et puis alors après, il y a Roger Rocher, c'était tout à fait son idée, il avait raison, il a tort, je ne sais pas, je ne juge pas, a commencé à pratiquer une politique un peu de végétarien. Il a fait venir Johnny Rep, il a fait venir Zimaco, Platini, d'autres joueurs encore, dont j'ai oublié les noms, qui n'étaient pas formés à Saint-Etienne. Donc peut-être qu'il y a certaines différences qui ont commencé à se mettre en place, différentes tensions entre des joueurs. Je ne veux pas rentrer dans les détails, il y avait des tensions entre les joueurs. Vous interrogerez certains joueurs de cette époque qui vous diront toutes lesquelles. Moi, je n'ai rien à dire, je n'étais pas dans le vestiaire, mais je le sais. Donc, première chose. Deuxième chose, il y avait des joueurs qui étaient très bien payés, d'autres qui l'étaient moins, donc source de tension. Et puis troisièmement, surtout, je suis obligé de parler de cela, j'en parle pas du tout dans mon livre. L'histoire de la Caisse Noire, il y a eu la Caisse Noire. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient payés en black et qui déclaraient pas ça aux impôts. C'était de l'argent qui était prélevé sur les recettes de guichet, le sponsoring, enfin, il y avait une double billetterie probablement. Donc, voilà, l'affaire un jour a éclaté. Le procureur de la République, alors il ne m'appartient pas d'en parler, ni de juger, c'est pas mon rôle. Le procureur de la République s'en est emparé, le procès a eu lieu, le président Rocher a été obligé de démissionner. Et c'est à partir de cette année-là, que les années 82-83, que le club commença à se dégrader. Et c'est là que j'interviens, moi à la fin de la saison, je deviens président au mois de mai 1983, à la fin de la saison. Nous étions en première division encore.
Le point intéressant, et je voulais commencer par ça, c'est que vous arrivez un peu sur un champ de ruines, et surtout, cette affaire, elle a éclaté parce qu'il y avait deux courants dans le club qui s'affrontaient, et que c'est l'un des deux courants, semble-t-il, qui a fait filtrer, qui a fait un peu fuiter l'affaire auprès des médias. Donc il devait y avoir beaucoup de tensions, j'imagine, quand vous êtes arrivé.
Alors oui, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je les connais, mais ça me gêne de parler, ça me gêne, c'est pas que ça me gêne, la plupart sont morts. Mais effectivement, il y avait deux courants qui se haïssaient. Il y avait les renchéristes, il y avait les buffardistes. Il aurait pu y avoir une autre solution. Il a été au président Roger Rocher, il lui a été proposé de démissionner, de s'en aller discrètement, de préparer un successeur, trouver une bonne solution pour la continuité. Et Roger Rocher, donc, je le comprends aussi, je le respecte, j'ai rien à dire, a refusé, il est resté. Donc, le procureur de la République a instruit un dossier, et à partir de là, l'histoire de la question a rainé. Et le club, alors vous l'avez bien, le club, les structures du club se sont effondrées. Moi, quand j'ai pris le club en 1983, mais vous allez peut-être me poser la question.
Oui, mais c'était de savoir justement dans quel état humain, sportif et financier vous l'avez trouvé.
Rien, il n'y avait plus rien. Voilà, il n'y avait rien. C'est pour ça que je parlais de 2 ans avant, le public marchait sur le toit du monde. Ça a l'impression que Saint-Étienne n'avait pas l'impression. Nous étions la grande équipe, une des grandes équipes européennes. L'une des grandes équipes européennes. Et 2 ans après, les structures s'effondraient. Et lorsque je pris le club en mai 83, à la demande du maire de Saint-Étienne, je suis arrivé dans cette affaire-là. Il n'y avait plus d'argent, pas le fisc, les contrôles fiscaux, machin, étaient passés par là, donc il n'y avait plus rien. Et puis alors après, il y a eu une hémorragie des joueurs, naturellement. L'entraîneur y est parti, Robert Hamin, d'autres aussi, tous les grands joueurs sont partis, il en est resté quelques-uns, mais très peu, Castaneda est resté, Mahut est resté, mais Mahut était blessé, il a joué que 6 mois. Moisan, qui était un bon joueur, est resté encore 1 an, Zanon, et puis après, l'équipe a été complétée par tous les jeunes du centre de formation. Donc on a repris la saison suivante, la saison 83-84. Nous étions en première division, mais l'avion était en piqué. Il ne s'est pas écrasé. Il s'est posé en deuxième division.
C'est une phrase, ouais, une image que vous utilisez souvent. Vous étiez, on peut le dire déjà à l'époque, un entrepreneur à succès. Pourquoi est-ce qu'on vient vous chercher, vous, qui êtes pas forcément impliqué plus que ça dans le monde du football, en dehors du statut de spectateur?
C'est ce que j'écris dans mon livre. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, rien n'a été prévu au départ. C'est à la suite de rencontres, une première rencontre que j'ai créée mon entreprise. Dans cette entreprise, j'ai bien travaillé, j'étais entouré de gens. J'ai compris quelque chose très jeune, c'est qu'on ne fait jamais rien tout seul. Il faut constituer une équipe. Et si j'ai réussi dans mon métier, c'est parce que très vite, j'ai constitué des équipes, à la fois sur le plan technique, sur le plan structurel, sur le plan expertise comptable, juridique, technologique. J'ai constitué des petites équipes d'abord de 1, de 2, de 10, de 12. J'ai formé une équipe, une grande équipe homogène. Donc, mon entreprise est née dans la vallée de London, dans une région où la boulonnerie avant était le cœur de la production. En 1965, tous disparaissaient, un nouveau apparaissait qui réussissait. Donc c'était un peu spectaculaire, c'était quand même visible. Donc premièrement, deuxièmement, très jeune, j'ai trouvé la vie, encore une fois les rencontres, m'ont fait devenir président d'un club de sport, m'ont amené à devenir président d'un club, d'un syndicat de PMI, m'ont conduit à entreprendre des choses qui fait que peu à peu, je suis apparu sur la scène stéphanoise. Les gens, mon visage apparaissait parfois dans la presse. J'apparaissais, on m'entendait, on me voyait. Et lorsque le club s'effondrait, donc le maire de la ville, François Dubancher, m'invita un jour à déjeuner pour me dire « Cher André, voilà, j'ai besoin de vous. » On me parle de l'ASS, les présidents succèdent. Rien ne va plus, le public gronde, nous donnons une très mauvaise image de notre cité, cette histoire de la caisse noire a été accablante, il faut qu'on sorte de cela, il faut qu'on trouve un nouveau président, notre conseil d'administration vous a sélectionné, c'est pour nous voulons que ce soit vous. Et j'ai beaucoup hésité parce que j'avais 44 ans par là, une entreprise de jeunes enfants, et dans un milieu que je ne connaissais pas. Je n'ai pas beaucoup hésité. En réalité, il ne m'a pas laissé le temps. François Limanchet, c'est un malin. Hein. Je l'ai écrit d'ailleurs. Vous l'avez peut-être lu ou vous le lirez. Il avait l'habitude, il disait les gens, quand on veut obtenir quelque chose d'eux, il faut les flatter. Et il faut, plus ils sont importants, plus il faut prendre un pinceau large. Il m'a fait l'honneur ce jour-là de sortir son pinceau plus large pour me dire qu'il n'y avait que moi, que c'était mon devoir. Et quelques minutes après, j'acceptais, je devins président des Verts, 3 jours après.
Le modèle des clubs était très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sont vraiment.
J'étais un membre élu.
Voilà, aujourd'hui, sont des
j'étais bénévole.
Ce sont des entreprises privées qui ont un propriétaire.
Ah, maintenant, c'est totalement différent. C'est un milieu qui ne me convient plus, d'ailleurs.
À l'époque, on était sur un modèle associatif. Comment se passe le fait d'arriver et de diriger le club, finalement, comme une entreprise, sans en être le patron, le propriétaire véritable?
On est le président, on est responsable. À partir des lois d'association de 1903, je crois, ou 1901. Donc, le président est désigné par un comité de direction qui a été élu. D'abord, il y a l'Assemblée Générale, il y a des administrateurs. Les administrateurs font l'élection d'un comité de direction. Le comité de direction fait l'élection du président. D'accord. Donc, j'ai suivi toutes ces étapes et je deviens président le mois de mai 1983.
À Saint-Étienne, l'ASS est une locomotive, c'est un élément incontournable et ça peut même générer des fantasmes. Vous qui l'avez vécu de l'intérieur, est-ce que président de l'ASS Saint-Étienne, on est aussi puissant que le maire de Saint-Étienne? Est-ce que toutes les portes s'ouvrent ou en tout cas, est-ce que tout le monde vous répond au téléphone?
Non, on ne peut pas se sentir, on ne peut pas parler comme cela. Enfin, moi, je n'ai jamais parlé comme cela. Je ne me suis jamais senti plus puissant que qui que ce soit. Le maire de Saint-Étienne avait en charge la communauté de la cité. J'avais en charge le club de football. Mais j'avais aussi en charge, et je l'ai toujours ressenti, je continue à le ressentir, même avec vous aujourd'hui, je ne suis plus président. J'avais en charge aussi l'image de notre région, de notre cité, de notre bassin d'emploi. C'est-à-dire que quand je m'efforçais toujours, lorsque j'apparaissais à la télévision ou lorsque j'avais des choses à dire, des contacts, des radios, des conférences de presse, il y en a eu infiniment, bien sûr, c'est toujours essayer de donner une bonne image, l'image d'une région industrielle, intelligente, d'une région où on trouve vraiment une main-d'œuvre des gens de tout niveau, ingénieurs, ouvriers, techniciens, hommes, femmes, de très grande qualité. Et j'ai toujours parlé avec beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur de ma région. Je ne me sentais pas au-dessus, mais je me sentais responsable de cette image.
Je parlais des portes qui s'ouvrent, des personnes qui vous répondent au téléphone. En parlant de téléphone, justement, comment ça se passe à l'époque? Parce que j'imagine que président de club, il faut être joignable quasiment en permanence. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de mail. Comment vous fonctionniez pour être entre votre entreprise, le club, votre vie de famille, pour arriver à être facilement gérable?
Je n'ai pas écrit ce livre pour me justifier, mais j'en ai parlé et je peux continuer à en parler. Et jamais public ne savait, jamais public ne l'a su ni ne l'a compris, puis je n'ai jamais parlé. J'en parle maintenant parce que c'est fini. J'avais organisé ma vie d'une façon tout à fait bien organisée, bien construite. Le matin, très tôt, j'étais à mon usine, très tôt. J'attendais l'arrivée des cadres, nous parlions, travaillions, préparions les dossiers et tout. Et à partir de 10h du matin, tous les jours. Ça n'a pas duré pendant 10 ans. À la fin, ça allait un petit peu mieux. À partir de 10h du matin, j'allais visiter des entreprises industrielles, services, commerces, pour leur présenter le projet d'entreprise ASS. Parce que les recettes des guichets ne représentent que 33% maximum du budget. Les 70%, il fallait les trouver. Et je dis, et c'est important que vous le sachiez aujourd'hui, que par rapport à ce qui existe aujourd'hui, il n'y avait pas de droit télé. Il y avait droit télé zéro. C'était les recettes des guichets et le sponsoring. Et pendant 10 ans, je me suis battu vraiment comme un fou au quotidien. Je n'étais pas seul. J'avais des amis, Philippe Coel, d'autres, 2 secrétaires, et puis 1 ou 2 personnes qui m'aidaient bénévolement pour convaincre des entreprises industrielles, commerce ou services à rentrer dans le club des sponsors, dans le club VIP, à acheter des parts de place. Ça a été passionnant. Et vraiment dévorant.
C'était un de vos axes de travail. Justement, vous aviez une vision entrepreneuriale de chef d'entreprise.
Rien d'autre, tout à fait.
Mais comment je vais le formuler? Une entreprise lambda, si on travaille bien, généralement, on est récompensé. Comment on vit l'incertitude sportive à la tête d'un club de foot? Parce qu'on peut très bien travailler et que tout s'écroule à cause d'un poteau qui repousse un ballon.
Tout à fait. Je comprends tout bien ce que vous voulez dire. Tout à fait. Je pense que nous avons, et chacun le reconnaît aujourd'hui, je pense que nous avons très bien travaillé. Et nous n'avons pas été champions de France. Nous n'avons pas gagné la Coupe de France, on aurait pu deux fois, ça s'est mal fini, malheureusement, en demi-finale. Donc, le succès ne vient pas forcément couronner tous les efforts qui ont été faits. Ils arrivent après, ou ils ont lieu avant. Moi, si vous voulez, j'ai hérité, vous l'avez très bien dit, d'un club. J'étais très à l'aise, je suis très à l'aise pour en parler. C'est bien tombé que je le prenne. C'est-à-dire, c'est un homme comme moi qu'il fallait que ce soit moi ou un autre, mais il fallait un entrepreneur qui restructure, voilà, qui rebâtisse. Il n'y avait plus de sponsor. Nous avons joué une année, enfin pas une année, plusieurs mois, il n'y avait pas de sponsor maillot. Aucune entreprise acceptait de nous faire confiance. Parce que ça avait quand même ébranlé la France sportive. On était descendu en deuxième division, on jouait contre Béziers, contre Guignon, contre Sète, contre Montceau-les-Mines. Donc le public était complètement effaré. Parce que chacun, dans son imagination, dans l'imaginaire de chacun, l'ASC c'est un grand club, bon, il est sur la caisse noire, on va régler ce problème en un an ou deux, et puis on va repartir comme avant. Et non, on ne part pas comme avant. Et non, on ne pouvait pas repartir comme avant. Il n'y avait plus rien, il fallait tout reconstruire.
Pour résumer votre passage au niveau sportif, donc la Saint-Etienne est reléguée en D2 à l'issue de votre première saison de présidence. Elle met deux ans à remonter.
Deux ans, oui. Première année, on finit premier à égalité avec Nice, mais Nice monte directement.
Deux ans à remonter avant de progresser petit à petit pour finir septième en 1993 lorsque vous la quittez.
Et demi-finaliste de la Coupe de France.
Avec deux demi-finales de Coupe de France en deux ans. Quel bilan sportif vous dressez de votre passage ?
Moi, très, très positif. Ça dépend des objectifs que l'on définit. Je me suis trompé une fois, je le reconnais. En parlant, quand nous avons fini quatrième dans la lancée là, de notre remontée en première division, je pensais que nous avions l'équipe, les moyens, les structures humaines et financières pour continuer à grimper. Or, la place des quatrièmes a été très bien acquise par une très belle équipe. Nous avions fait une très belle saison. Et puis derrière, ça a moins bien marché. La place des quatrièmes fut la plus belle place que j'ai obtenue. Et je pensais que ça allait continuer. J'ai fait l'erreur de dire, l'année prochaine, nous serons européens. Et alors après, naturellement, nous n'avons pas été. Et après, j'ai pris le temps, nous avons ensemble, avec mes amis, pris le temps de la réflexion. Et après, nous avons bâti un projet d'entreprise qui reposait sur des bases que nous avons bien analysées. Saint-Étienne n'est pas une ville riche. Le football commençait à changer, l'arrêt Bosman, les étrangers arrivaient, les moyens financiers devenaient extrêmement importants. Et moi, je savais qu'une ville comme Saint-Étienne, malgré tous les efforts de sponsoring généreux, la bienveillance, nous avons toujours été encouragés par le milieu économique, je savais quand même que nous ne pouvions pas rivaliser. Donc, mon positionnement n'était plus de dire on sera européen, c'est de dire il faut que nous restions en première division. Première tâche, il faut que nous devions une équipe installée en première division. Que nous ne fassions pas comme Auxerre, tiens, qui redescend cette année, je monte, je redescends, ou Le Havre, qui ça fait ça ne sait combien de fois, ou tant d'autres encore. Saint-Étienne, nous sommes remontés, nous avons fait des efforts colossaux, on s'est battu comme des chiens, pour remonter en première division, on a gagné, maintenant il faut s'installer. On finit 15e, ça n'a aucune importance, on finit 17e, ça n'a pas d'importance, on est encore en première division, et chaque année, on tente de progresser. Et c'est ce qu'on a fait, on est passé par la 11e place, puis la dernière année, la 7e place, et là, s'il n'y avait pas eu tout un tas de choses... On va y venir, je suis convaincu que nous aurions continué à progresser, c'est pas moi qui le dis, c'est Sylvain Kastendutsch dans la préface de son livre.
Les erreurs dont vous les reconnaissez dans votre livre, vous dites que vous en avez fait.
Bien sûr.
S'il fallait changer quelque chose ou des choses sur votre passage, vous citeriez quoi ?
Je ne pourrais pas changer beaucoup de choses, parce que à l'égard de certains joueurs, on a cité le nom d'Yvon Pouliquen il y a peu de temps, pour les raisons de budget, de bilan, de compte d'exploitation. Je n'ai pas pu mener avec lui à terme le projet que nous avions. Je l'ai regretté. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix qui n'était pas bon pour lui, qui n'était pas bon pour moi non plus, mais il y a des équilibres financiers qu'il faut respecter. J'ai gardé avec peu de lui un merveilleux souvenir, c'est un garçon attachant. Il était avec Sylvain Kastendutsch, l'un des deux piliers, capitaine et vice-capitaine de l'équipe. Donc ça c'est des choix, mais je crois qu'on a fait tous. C'est pas forcément une erreur, c'est un choix qui peut être considéré comme une erreur. Des erreurs... des choix de joueurs. C'est moi qui ai choisi un joueur, c'est toujours entraîneur, c'est toujours l'équipe sportive. Mais j'ai cautionné certains choix. Peut-être j'aurais dû m'y opposer. Enfin, là, nous sommes confrontés à l'histoire de la vie. Choisir ou subir.
Vous écrivez aussi que ces 10 ans ont été, je vous cite, très durs et extrêmement passionnants. Votre période préférée, c'est, s'il fallait en retenir qu'une, ce serait laquelle ?
Eh bien, ça va vous surprendre, monsieur, mais c'est les 3 premières années. La remontée en première division.
Pour quelle raison ?
Parce que je reprends les propos de, je crois que c'est Gérald Foll qui écrivait « Se rencontrer, c'est bien. Travailler ensemble, c'est un progrès. Rester unis, c'est ça le succès et la réussite. » Comme je vous l'ai dit, il y avait tout à reconstruire, il fallait tout rebâtir. On est parti avec des jeunes, nous sommes partis avec des jeunes, nous avons constitué un groupe. Ce groupe s'est homogénéisé, est devenu. Nous avons passé quand même une période après avoir pris le sponsor Quai Crochet,
une entreprise locale.
Voilà, le Quai Crochet de Rouen, qui illustra notre maillot pendant 2 ans. Il y a une solidarité, une fraternité qui s'est installée dans l'équipe. Nous avons fait derrière 26 matchs sans défaite. C'est-à-dire qu'après avoir trouvé le sponsor, on n'avait rien sur le maillot, nous étions au fond du classement. Je trouve le sponsor, Quai Crochet, la confiance renaît, quelques discours, beaucoup de réunions avec les joueurs, avec l'entraîneur, tout ça. La confiance renaît et nous faisons derrière 26 matchs sans défaite et nous finissons premier à égalité avec Nice. C'est Nice qui monte et malheureusement en barrage, nous ne passons pas devant Rennes parce que l'équipe était au bout du rouleau, quoi.
Le football, c'est du sport, mais c'est aussi avant tout de l'humain. Est-ce que vous pourriez nous citer à la fois les meilleures recrues que vous avez faites et les plus belles rencontres ?
Oh, difficile. Alors, il y a une très belle recrue que je mets en mon compte, bien sûr. C'est Roger Milla. Roger Milla, je l'ai couru après pendant longtemps. Il avait arrêté sa carrière. Il était reparti en Afrique, au Cameroun. J'avais un numéro de téléphone. J'appelais inlassablement et ça répondait jamais ou c'était jamais lui. Et puis, j'ai raconté l'histoire dans mon livre. Un jour, j'arrive à Geoffroy Guichard. Je vois un homme... africain assis sur un trottoir avec un sac à... Je le regarde, je le connaissais pas. Il vient vers moi, il me dit: vous êtes le président Laurent? J'avais une jolie voiture, c'était garé sur à la place du président de l'ASS. Je dis oui, je crois que j'ai mis là. Donc c'est à partir de là que nous sommes rencontrés. Le premier contrat a été signé, voilà. Roger a fait 2 ans chez nous et tout le monde garde de lui un souvenir absolument merveilleux. Alors Roger Milla, j'ai beaucoup parmi les joueurs, bon, je pense à Poliquin, je pense à Kasten Dutch. Les belles années, ce furent les premières, mais j'ai beaucoup, 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 tout au même titre, c'est la question précédente, j'ai beaucoup aimé les 2 ou 3 dernières, notamment la dernière. Nous avions une très belle équipe. Et ils seront tous là, d'ailleurs, mardi, je fais une fête, là. Ils seront tous là mardi pour la sortie de mon livre. J'ai invité tous mes amis et tous les joueurs avec lesquels j'avais eu beaucoup de bons contacts. Là, ils seront une 60aine au moins à venir. Parmi les jeunes et les moins jeunes, il y a eu des très belles rencontres. Il y a eu la rencontre avec Sylvain Kasten-Dutch qui m'a fait l'honneur de faire la préface de mon livre. Je me rappelle de Joseph Antoine Bell qui ne peut pas venir, qui n'est pas là, je n'ai pas pu réussir à le joindre. Je me rappelle d'un certain nom, Lubo Moracik. Lubo, c'est l'idole de Saint-Étienne. Ben, je l'ai eu au téléphone juste avant que vous arriviez. Il vient dimanche et nous jouons au golf lundi et mardi sera ma réception.
Moi qui ai grandi dans les années 90, c'est un peu le premier joueur qui m'a impressionné. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous arrivez à aller chercher ce joueur en pleine Coupe du Monde 1990 ?
Alors, à cette époque-là, travaillait avec moi Bernard Bosquet, qui n'a pas resté très longtemps, d'ailleurs, pour différentes raisons. Et Bernard Bosquet avait beaucoup de bon sens, il avait beaucoup d'informations au niveau du football. Et un jour, il me propose, il me dit: André, il faut que nous allions... Il y a un joueur qui m'a été proposé, et il est en fin de contrat dans un club de Tchécoslovaquie, je ne sais trop où. Il participe avec son équipe de Tchécoslovaquie à la finale, non pas la finale, à un match de 8e ou le quart de finale contre l'Allemagne, en Italie, à Milan. On organise un rendez-vous avec son agent, avec lui, son épouse, après le match. Et nous sommes allés voir jouer à San Siro, à Milan. Donc on a vu un garçon talentueux, ça s'est très bien passé, il a fait un beau match. Et puis, nous avons dîné ensemble le soir, et puis il a signé son contrat. C'est ainsi que nous avons fait venir Moracik à Saint-Étienne. Et comme il était très talentueux et qu'il était visible, et beaucoup de clubs ont tenté de le racheter, notamment Tapi, qui me harcelait à la maison et m'appelait sur mon téléphone familial. Et je n'ai pas voulu le lâcher. Et Lubo, que j'ai eu ce matin au téléphone, chaque fois qu'il me voit, il me dit toujours: je vous remercie. parce que je l'ai racheté, si je peux, je l'ai pas racheté, je lui ai donné une très belle prime pour qu'il re-signe à Saint-Étienne. Et il me dit toujours, vous avez fait ma fortune en rigolant, parce qu'avec cet argent, j'étais plein d'appartements qui étaient pas chers, et maintenant, je suis très à l'aise grâce à vous. Quoi. Voilà. Il dit avec tellement de gentillesse, parce qu'on est très amis, on joue au golf ensemble, je veux qu'il vienne à Saint-Étienne.
Je vous ai demandé les grandes joies, je vais forcément vous demander la plus grande déception. Est-ce que ce sont les conditions de votre départ ou il y a eu d'autres moments difficiles ?
Il y a eu des moments difficiles, je n'ai pas connu beaucoup. Il y en a eu des moments difficiles quand on est entrepreneur, que ce soit dans le football ou dans l'entreprise, il y en a. Les crises de croissance, notamment les premières années, pas de sponsors, il fallait en trouver. Les moyens financiers à mettre en place. Première déception importante pour moi, ne pas monter directement en première division au terme de la première année. Comme je l'ai dit, nous faisons étendre en barrage. Donc là, ce fut une déception. Il fallait repartir pour une deuxième année en deuxième division. Il a fallu s'armer de courage. Nous y sommes parvenus. Après, nous avons été éliminés en Coupe de France en 88 par Montpellier. Cantona nous plante un but d'un autre monde et on a été éliminés. On ne participe pas à la finale. Après, il y a eu la façon dont je suis parti de l'ASS qui a été une souffrance. Ça n'a pas été une déception.
Je vais raconter, vous me direz si mes souvenirs sont erronés ou pas.
Je vous écoute.
Vous partez donc sur un conflit en 1993. Juste avant, il y a une fameuse séquence qui est toujours disponible sur YouTube grâce à l'excellente chaîne ASS Memory. Ce jour-là, vous disputez la demi-finale de Coupe de France à Geoffroy Guichard contre Nantes. Et le matin même, Téléfoot est diffusé en direct du stade Geoffroy Guichard. Et il y a deux des journalistes présents, Pascal Pro et Jean-Michel Larquet, pour ne pas les citer, qui attaquent frontalement, mais très dur, votre bilan. Comment est-ce que vous avez vécu d'être critiqué de la sorte dans votre stade, presque chez vous, j'ai envie de dire ?
Je peux répondre très chaud, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je voulais encore maintenant, à mon âge, je ne vais pas créer de problème, mais je n'en créerai pas d'ailleurs, en disant la vérité. Oui, ce fut une souffrance. J'ai même, si j'avais été moins fort, j'aurais probablement fait une déprime qui ne s'est pas vue. Parce que je ne pouvais pas faire payer à ma famille et au personnel de ma société et à mes amis le poids de ma déception. Donc j'ai été très, très malheureux pendant un certain nombre d'années, au moins 2 ans, oui. Les jours de match, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, je partais promener mes chiens dans les bois pour ne plus penser au football, quoi. C'était difficile. Donc pour revenir à cette situation, je m'en rappelle très bien, je m'en rappelle parfaitement de tous les détails, les mots qui ont été dits par les uns, par les autres. C'était d'abord une grande faute de déontologie, parce que Jean-Michel Larquet était un journaliste, mais il postulait pour être le directeur de sportif de Yves Guichard, qui allait devenir le président derrière moi. Et je savais depuis 2 ans. Il y a un complot qui, inlassablement, les 2 dernières années ont été très satisfaisantes, surtout la dernière sur le plan sportif, et sur le plan courage et mental, pour moi, ça a été très dur, et pour ma famille. Il y avait des gens, ceux qui n'ont jamais rien fait quand la situation est difficile, et qui réapparaissent quand tout va bien, sans citer de nom, qui m'ont mené une vie épouvantable. Des tracts, des tags sur les murs, des lettres anonymes, des coups de téléphone anonymes ont pourri la vie pendant 2 ans. Mais comme j'avais la confiance avec les joueurs, j'avais un beau projet, j'étais entouré de bons amis et d'une famille très solide, ça ne m'a jamais ébranlé, jamais. En revanche, l'histoire de Téléfoot, je regrette un certain nombre de choses. La première, ça s'est passé le soir, nous avions la demi-finale de Coupe de France. Et les joueurs ont été, par cette émission, ils la regardaient. Moi, j'étais devant l'arquet. Et devant Pascal Pro, eux, ils étaient au restaurant en train de manger ensemble, comme toujours à mon match, et ils l'ont regardé. Et je les ai rejoints prendre le café avec eux après cette émission désastreuse. Et j'ai eu 2 ou 3 joueurs qui, dans l'intimité, m'ont dit « C'est terrible ce qui vient de se passer, les joueurs sont complètement désemparés. » Et l'un m'a dit « Il y a un complot qui est tel, ils le savent. » Que ce soir, président... Ça va être très dur, on a perdu. Donc là-dessus, je partais, parce que j'ai compris que le poids venait de Casino, qui était bien content de voir Yves Guichard s'en aller. Larquet a pris la direction du club pendant quelques mois, ils sont restés 8-9 mois, je crois, et puis ils sont enfuis après avoir échoué.
Ouais, et puis le club est redescendu 2 ou 3 ans.
2 ans après, ils ont délabré les 10 ans de travail que j'avais fait.
Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal, c'est de devoir partir ou de voir que tout ce que vous avez bâti a volé en éclats?
L'un et l'autre, ça m'a fait beaucoup de peine, l'un et l'autre. J'ai souvent pensé à cette émission. J'avais deux attitudes. J'ai réfléchi, écoutez, dès les premiers mots, c'est Pro qui a allumé la première mèche, c'est Pierre-Pré Larquet qui m'a massacré. Et dès les premiers mots, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Quelle est la bonne solution? Est-ce que je continue à garder mon calme, ma dignité, pour montrer aux joueurs que je, et au public que je suis, que je contrôle la situation? Je ne suis pas un homme qui se laisse aller aux émotions, ou à l'impatience, ou à la colère. Ou est-ce que je mets en colère, je prends la chaise, je la balance sur la caméra et je m'en vais? J'ai choisi la première solution. Peut-être que j'ai eu tort.
Si c'était à refaire aujourd'hui?
Si c'était aujourd'hui, je serais moins doux et moins élégant dans mes propos.
Depuis 30 ans, je l'ai dit, vous êtes très peu exprimé sur le club en vous interdisant de critiquer vos prédécesseurs et vos successeurs. Vous n'êtes pratiquement plus retourné dans le chaudron. Paradoxalement, vous habitez très près du centre d'entraînement de l'ETRA. Est-ce que vous continuez encore à suivre un peu le monde du football ou vous avez complètement coupé?
Je continue à suivre le monde du football et je continue particulièrement à suivre la SS. Ça ne cessera jamais d'être mon club. Il le fut avant que je sois président. Je ne le suis plus. Je pourrais ne plus m'y intéresser. J'ai d'autres loisirs. Je vous ai parlé du golf. J'ai une nombreuse famille. Mais je suis la SS. Je la suis d'un peu loin, certes. Mais je continue à suivre mon club.
Ce sport a beaucoup changé, connu pas mal d'évolutions par rapport à votre époque. On est passé d'un modèle associatif à des clubs qui sont devenus des entreprises privées. Il y a la puissance exponentielle de l'argent, l'importance des médias, la communication permanente. Quel est le principal changement que vous avez observé de loin?
La puissance de l'argent. Maintenant, je pense, je suis même convaincu, que les clubs formateurs tels que le fut Auxerre, Saint-Étienne, qui forment des jeunes, qui passent un an sous le maillot, qui sont sollicités après par l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, pour avec des contrats mirifiques, je ne pense pas que l'on puisse revivre, je ne pense pas, je suis convaincu que l'on ne pourra jamais revivre les émotions, les joies, les grands bonheurs que nous avons connus dans l'année 70. Nous sommes en 2023. Les grands clubs maintenant sont achetés par des pays étrangers, dans beaucoup de cas, par des entrées riches qui et tant mieux pour eux, s'ils ont travaillé, ils ont gagné de l'argent, je m'en réjouis pour eux. Qui veulent utiliser le football comme un vecteur de communication, de marketing pour présenter leur pays ou leurs produits. Une ville comme Saint-Étienne, il n'y a qu'un objectif, être en première division et s'y maintenir. De temps en temps, faire une finale de Coupe de France ou une demi-finale, de temps en temps être européen, je crois qu'il faut cesser de rêver.
Depuis votre départ de la SS, vous racontez dans le livre que vous avez eu, je ne sais plus, c'est une ou deux occasions potentiellement de pouvoir revenir aux affaires. Une déception que ce ne soit pas concrétisé.
C'est une... Oui, mais pas trop lourde. La première déception était tellement grande que les suivantes l'étaient beaucoup moins. Oui, effectivement, tous les politiques de la région souhaitaient que je revienne. Le président du conseil général, le maire de Saint-Étienne, l'un s'appelait Clément, l'autre s'appelait Thiolière. M'ont invité à déjeuner un jour pour me dire on est redescendu en deuxième division, André Laurent, il faut que vous reveniez, que vous recommenciez votre... Et là, j'étais plutôt disponible parce que j'ai commencé à me retirer de mon entreprise pour laisser la place à mon fils. Donc je me suis dit pourquoi pas, je sais comment faire, je l'ai déjà fait. Et là, le patron, celui qui était le président de Casino à cette époque-là, Georges Plassat, s'y est opposé. Fort aimablement, fort élégamment, fort gentiment, mais simplement en disant, comme c'est nous qui nous avons mis dehors, je ne peux pas me dédire, donc je ne peux pas revenir sur cette décision. Ce que j'ai trouvé un peu, comment dirais-je, un peu orgueilleux, quelque part. C'est faire des erreurs, reconnaître qu'on a fait une erreur, c'est se grandir, ce n'est pas s'humilier. Si Georges Plassat ce jour-là avait dit, effectivement, nous avons fait l'erreur de chasser André Laurent avec laquelle nous avions une bonne entente, une bonne communication, ce que nous avons mis en place, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je reconnais que le retour d'André Laurent, ça serait une bonne chose. Je pense qu'il serait grandi. Toute erreur est source de progrès.
Le changement de direction, la vente du club, c'est un serpent de mer ici depuis des années maintenant. Est-ce que vous avez un regard, une opinion sur la question ?
J'ai reçu déjà un certain nombre de gens qui sont venus m'interroger, me parler avec moi, qui étaient intéressés par le club. Je pense que je n'ai pas jamais parlé des présidents qui... D'abord, deux présidents, ça ne marche jamais. Ça, c'est la première chose que je dis. Je ne me critique pas, c'est leur vie, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont mis l'argent qu'il fallait. À ce moment-là, il y en avait très peu d'ailleurs. Mais je pense que maintenant, il faut une nouvelle direction, il faut un nouveau projet, il faut une nouvelle dynamique, il faut un nouveau rêve, il faut créer un nouvel horizon qui repose sur des bases solides, des bases de notre région, de notre ville, de notre cité, des hommes et des femmes qui la font, notamment les entreprises.
Si ce Pulse arrive à se mettre en place, est-ce qu'on a une chance de vous croiser un jour à Geoffroy Guichard ?
Moi ?
Oui.
Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Je suis jamais retourné. J'ai été très blessé. La cicatrice ne me fait plus mal, mais n'est pas guérie.
J'en arrive du coup à ma dernière question. Vous avez 85 ans, vous l'avez dit au début, au moment où on enregistre notre conversation. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ?
Garder cette belle santé que j'ai, ce mental... cette force qui m'anime. Et puis garder surtout, maintenant je finis ma vie, moi il n'y a qu'un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est la bienveillance et l'amour. Et je suis plus crédible maintenant en parlant. Quand on parle de cela à 40 ou 50 ans, ça paraît, on dit, on n'y croit pas trop. Je me rends compte que la vie, j'ai lu beaucoup d'articles, je vous l'ai dit, j'ai lu beaucoup de livres, de gens brillants. Les gens brillants qui ont eu des carrières bien plus exaltantes et plus passionnelles que la mienne, et qui, à la fin de leur vie, écrivaient si c'était à refaire, je passerais plus de temps à la tolérance, à la bienveillance, au pardon, à l'amitié, à l'acceptation de la différence et à l'amour. Parce qu'on travaille, on se défonce, et puis on se... En fait, j'aime beaucoup la phrase d'un. J'ai lu sur Facebook, je crois. Je crois que c'est Steve Jobs qui écrivait. Les gens dépensent leur santé pour gagner de l'argent. Quand ils ont de l'argent, ils dépensent leur santé. Ils dépensent leur argent pour retrouver la santé et ils meurent, ils n'ont pas vécu. Parce que la vie, c'est travailler. La vie, c'est gagner de l'argent pour certains, peut-être. La vie, c'est essentiellement transmettre. Moi, mon livre, c'est un livre de transmission. Je transmets à mes petits-enfants toutes les valeurs, tout ce que je crois, toutes les belles choses que j'ai rencontrées dans ma vie, parce que la vie a changé, leur transmettre. Ben, je suis sûr d'une chose, que tout changera, toutes les technologies, tout le monde change, je l'ai écrit, vous retrouverez la phrase. Il y a une chose qui ne changera jamais, ce sont les valeurs, qui s'appellent respect, honnêteté, justice, courage, pardon, civisme, accepter les différences, encore une fois, s'enrichir de la différence de l'autre. Toutes ces valeurs qui sont maintenant un peu bafouées dans ce monde médiatique dans lequel nous sommes, avec les réseaux sociaux qui disent tout et son contraire. Donc je voulais me rattacher à ce qui fut mon enfance, ce qui fut ma jeunesse, ce qui fut ma vie. On peut mettre l'intelligence artificielle, les ordinateurs, les smartphones les plus modernes. Les valeurs, elles étaient, elles sont, elles seront toujours.
Eh bien écoutez, je vous propose de finir sur ce beau message. Je vous remercie encore une fois de nous avoir accueillis chez vous et je vous dis à bientôt.
C'est un plaisir de vous avoir accueilli. Je vous ai raconté une partie de ma vie avec simplicité. Merci.
Merci André Laurent pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous attends sur Facebook, Twitter et Instagram pour en discuter. Vous pouvez aussi m'écrire par mail à dessousdevert@gmail.com. N'hésitez pas non plus à faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !